L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Je ne sais pas comment vous gérez aujourd'hui la culpabilisation face à la crise climatique, mais on est tous dans des questionnements quotidiens sur est-ce que je dois prendre ma voiture, est-ce que je dois manger moins de viande, est-ce que je dois trier mes déchets, comment je gère par rapport aux autres États qui ne le font pas, par rapport à mon voisin qui potentiellement ne le fait pas, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, quelle est la responsabilité, ma responsabilité, mais quelle est la responsabilité des autres, etc. Aujourd'hui, je reçois Albert Moukaïber, qui est docteur en neurosciences et psychologue, qui a créé le laboratoire ACT et qui réfléchit aux freins comportementaux face à la crise climatique. Donc, on va discuter de cela avec Albert. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Volant, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis avec Albert Moukaïber et tu es docteur en neurosciences et psychologue.
C'est ça. Bonjour.
Et bonjour. Et tu as créé un laboratoire qui s'appelle ACT, qui a réfléchi aux freins comportementaux face à la crise climatique. Et en fait, j'avais envie de parler de ça avec toi, parce que je pense que ça crée pas mal d'anxiété, ça crée pas mal de questionnements chez tout le monde. On a tous des contradictions permanentes sur nos modes de vie, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas comment le faire, etc. Et moi, ce que j'ai lu dans plusieurs bouquins ou autres, c'est qu'on avait plusieurs freins automatiques, par exemple sur la distance, dans le temps, mais aussi la distance géographique, et qu'on essayait de mettre plein de freins pour surtout pas changer notre mode de vie finalement, ou en tout cas les choses qui nous importent vraiment. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce sujet-là en particulier ?
Alors moi, je m'intéresse déjà à comment on acquiert de la connaissance, comment on sait ce qu'on sait, et ce qu'on appelle la flexibilité mentale, c'est-à-dire quelles sont les choses qui peuvent promouvoir changer d'avis et les choses qui peuvent nous empêcher de changer d'avis selon les informations qui nous viennent du monde. Et d'autre part, je suis sensible, j'imagine, comme tout le monde, à l'urgence climatique, ou en tout cas j'espère comme tout le monde. Et donc un pote à moi chercheur qui s'appelle Thibaut Griesinger s'intéressait énormément à la question climatique. Et donc, il m'a proposé de fonder... Il voulait lui fonder ce labo. Il m'a demandé si je voulais me joindre à lui. Et j'étais partant. Et donc, on a fait ACT, qui est un peu le raisonnement critique appliqué au réchauffement climatique. Donc, d'un côté, on étudie les freins. Et de l'autre côté, on étudie qu'est-ce qui peut promouvoir l'action. Parce que le but, c'est pas juste de comprendre pourquoi on fait rien, mais aussi de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça bouge.
Et alors, ce que tu dis, toi, enfin, toute ta thèse sur la partie du cerveau, c'est de dire, il faut pas faire confiance justement à son cerveau. Quels impacts ça a sur cette question climatique et par où on doit le prendre? Donc, si on revient sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, enfin, j'imagine que toi, t'as beaucoup bossé là-dessus, mais...
C'est pas qu'il ne faut pas faire confiance à son cerveau, mais c'est on peut pas se faire confiance tout le temps. Mm-hmm. Et le manque de confiance, c'est pas un manque de confiance en soi. C'est ne pas croire mes habitudes, ne pas croire mes pensées, ne pas croire mes émotions, ne pas croire mes intuitions. Paradoxalement, il faut avoir confiance en soi pour se permettre cette vulnérabilité vis-à-vis de soi. Effectivement, pour le climat, par exemple, c'est un sujet très complexe. C'est pas par hasard que ça fait 30 ans qu'on essaye de convaincre tout le monde que c'est déjà, on a eu beaucoup de mal à convaincre tout le monde que c'est vrai. Maintenant, la réponse, l'éducation s'est déplacée de c'est vrai à c'est causé par l'homme. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui sont pas climato-sceptiques qui disent ouais, il y a un réchauffement climatique, mais c'est pas l'homme. Mmh. Et donc il y a un énorme travail de pédagogie quelque part. Sauf que si on suit un peu, si on fait schématiquement comment est-ce qu'on agit dans une situation, imaginez que vous êtes exposé à une information, elle devient une connaissance. Quand vous interagissez avec une connaissance pendant un moment, elle devient une croyance. Comme la croyance, par exemple, on est foutu. Une fois que une croyance est quelque part centrale pour vous, ça peut devenir une intention. Donc, je veux faire quelque chose. Et une fois qu'on a l'intention, on peut passer à l'action. Et donc, je fais quelque chose. Et par exemple, j'arrête de prendre l'avion. Entre cette courbe de connaissance à croyance, croyance à intention, intention à action, il y a plusieurs pièges qui peuvent venir se loger. Par exemple, dans le cas des climato-sceptiques, ils peuvent avoir être exposé à de fausses connaissances ou être exposé à de bonnes connaissances qu'ils intègrent de manière fausse, qui les pousse à avoir une fausse croyance. Entre l'intention et l'action, par exemple, il y a ce qu'on appelle la intention-action gap, le trou intention-action, où je peux dire je veux faire quelque chose, mais je passe jamais à l'action. Par exemple, je peux dire je vais faire plus de sport, prendre mon abonnement à la salle de sport et ne pas y aller. Ou je veux faire un régime et ne pas le faire. La intention-action gap, par exemple, un mot qu'on utilise de la vie courante qui décrit un type d'intention-action gap, c'est la procrastination. Mm-hmm. Du coup, face au réchauffement climatique, il y a des obstacles quasiment à chaque étape de ce processus. Au niveau des connaissances complexes, beaucoup de gens ne savent pas la différence entre climat et météo, par exemple. Vous dites le réchauffement climatique, mais il fait froid. C'est ce que Trump a dit une fois, donc ouais, c'est quand même le président de la République. Entre croyance et intention, il y a plusieurs freins, parce que par exemple, je peux me dire, ok, on est foutu, mais le climat c'est trop grand, moi je peux rien faire, c'est pas comme si moi, avec mon petit verre en plastique, je vais faire une différence, donc ça devient pas une intention. Et entre intention et action, on peut avoir aussi un grand trou, parce que, par exemple, je dis je veux moins manger de viande, parce que je sais que la viande, c'est pas bien pour le climat, mais au boulot où je suis, à la cantine, il n'y a pas de plat végétarien. Du coup, je ne peux pas passer à l'action parce que mon intention est très difficile à mettre en place. Je ne vais pas partir de mon bureau à chaque fois pour aller à une cantine ou préparer le soir mes plats parce que je n'ai pas le temps, parce que j'ai des enfants. Donc, il y a une sorte de réalisme. Et donc, on s'intéresse un peu à des différents pièges que notre cerveau peut mettre en place. Mais aussi, il ne faut pas oublier ça, aussi la société, le système dans lequel on vit, on va dire, ne promouvoit pas énormément l'action encore, parce que c'est un système qui est quand même axé autour de la consommation, de la production, etc. Et c'est pas spécifique au climat, hein. Par exemple, pour prendre un sujet beaucoup plus simple, mais avec lequel on a beaucoup de mal, c'est la clope. La clope, il n'y a plus vraiment de débat que c'est mauvais, il n'y a plus vraiment de débat que c'est pas bien pour la santé, ni pour les enfants, ni pour personne. Il y a encore des fumeurs dans le monde. Et ça touche à la santé de l'individu. Donc on peut même pas, genre, il y a un truc qui s'appelle la diffusion de responsabilité, de dire pourquoi moi, pas les autres. Avec la clope, je peux pas dire pourquoi moi je dois arrêter de fumer, pas les autres, parce que c'est mes poumons, et on le fait quand même. Et c'est peut-être ça l'apport des neurosciences, ou plutôt des sciences cognitives récemment, c'est d'entériner le fait qu'on est une espèce qui est relativement irrationnelle. Qu'on n'agit pas de manière comme des agents rationnels, on pèse les pour et le contre. Et évidemment, les pour sont beaucoup plus grands que les contre sur les clopes, et donc on fume pas. Ça marche pas comme ça.
Non. Et ce que tu disais, je crois, j'ai écouté une interview de toi où tu disais ça, qui disait, si tu fumes, tu meurs dans la minute d'un cancer, du coup, tu fumes plus.
Ouais.
En même temps, t'aurais pas l'occasion de fumer beaucoup de fois.
Même pas. Si on prend vraiment les mêmes statistiques pour la clope, mais on réduit la distance temporelle. C'est-à-dire, si je te dis, si tu fumes aujourd'hui, après-demain, tu as 70% de chances, ou 60, ou 50, ou même 20. 20% de chances en plus que quelqu'un qui fume pas d'avoir le cancer. C'est même pas garanti, il y aurait infiniment moins de fumeurs dans le monde. C'est-à-dire, même à un niveau probabilistique, quand on rapproche la distance temporelle, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de personnes. On n'a pas et c'est des limitations quasiment des fois biologiques, on n'a pas les ressources attentionnelles nécessaires pour garder en tête une action qu'on fait et dont on voit les conséquences beaucoup plus loin. Et c'est la même chose pour les trucs positifs. Par exemple, faire du sport. Imagine que si je vais à la salle de sport, je fais une heure de sport et quand je sors, je suis hyper musclé, hyper baraqué. Il y aurait beaucoup plus de gens qui font du sport. C'est juste que ça met 6 mois pour voir les résultats et donc j'y vais le premier jour, j'y vais le deuxième jour, le troisième jour et après je me dis ça sert à rien. Le régime, c'est la même chose. Tout ce qui est dans un effort décalé, on parlait tout à l'heure des guitares, il y a beaucoup de gens qui abandonnent l'apprentissage des instruments de musique parce que au début on sent que c'est très facile, après on va taper une sorte de limite où on sent qu'on n'avance plus, qu'on stagne. Et beaucoup de personnes abandonnent. Ils ne disent pas que si je continue, je vais devenir Bruce Springsteen.
Ouais, non, c'est sûr. Et si on revient à cette histoire de climat, qu'est-ce qui fait, enfin, c'est quoi les biais qui font que on fait pas des... enfin, parce que finalement, alors moi je suis assez contre justement la culpabilisation permanente des individus, donc ça je pense qu'on va tomber d'accord là-dessus, mais néanmoins pourquoi par exemple Greta Thunberg, tu vois, on en parle beaucoup, qui fait beaucoup de contestation envers les États, finalement elle devrait quasiment faire de la contestation envers les entreprises, parce que c'est plutôt, enfin le système il est autant les entreprises que l'État. Pourquoi on fait pas plus de contestation, pourquoi les gens modifient pas leurs actes de consommation, pourquoi ils disent oui mais par exemple il y a quelqu'un qui meurt au Pakistan mais moi je connais personne au Pakistan, je connais même pas quelqu'un qui connaît quelqu'un au Pakistan, donc finalement c'est un peu loin. Pareil quand on dit la crise climatique en 2100 ça sera invivable, oui enfin 2100 c'est très très loin, et est-ce que c'est ces éléments là qui font qu'on s'en empêche de passer à l'action, qu'est-ce qui se passe en fait?
Ça c'est un des éléments, il y en a d'autres. Il y a, donc j'ai un peu mentionné mais je ne l'ai pas explicité, il y a ce qu'on appelle la diffusion de responsabilité, c'est-à-dire pourquoi moi et pas les autres. Donc quand l'expérience que je peux donner, c'est par exemple des fois on entend qu'il y a eu une agression dans le RER ou dans le métro et personne n'a rien fait. Du coup des chercheurs ont voulu étudier ça, mais ce qu'ils ont trouvé, je pense, est assez remarquable et intéressant, c'est que si, donc il y a moi et toi dans le RER, et une personne monte et m'agresse, tu vas probablement venir m'aider. On se connaît pas, hein, genre.
Ou pas.
Ou pas. Mais imagine qu'on se connaît pas, tu as plus de chances de venir m'aider que si il y a moi et toi dans le RER, et toi, tu as ton pote avec toi, ou il y a une troisième personne qu'on connaît pas, et quelqu'un vient m'agresser. Si vous êtes deux dans le RER, à part moi, vous avez moins de chances de m'aider. Si vous êtes trois, il y a encore moins de chances. Si vous êtes quatre, il y a encore moins de chances. Alors qu'on pense que s'il y a beaucoup de gens, on aura plus de chances de faire quelque chose. Mais en fait, ce que ces chercheurs ont essayé de mettre en évidence, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une diffusion de responsabilité. C'est-à-dire, s'il y a une personne seule dans le RER, cette personne va se dire « je suis vraiment un salaud, je n'ai pas une personne qui se fait agresser ». Donc elle va y aller. Alors que s'il y a cinq personnes, chaque personne peut déléguer quelque part et se dire « pourquoi moi je vais prendre le risque de me faire tabasser aussi ? Pourquoi eux, ils n'y vont pas ?» Et ça crée une sorte de paralysie permanente. Donc il y a... Tous les effets que je vais mentionner ne sont pas à eux seuls assez pour expliquer pourquoi on fait rien. C'est juste des pistes de réponse. Donc il y a la diffusion de responsabilité. Il y a aussi ce qu'on appelle l'impuissance acquise. C'est quand on sent que de toute façon, je vais rien faire parce que de toute façon, ça sert à rien. On devient impuissant. Par exemple, des fois on dit moi je ne vote plus parce que le vote ça sert à rien, c'est une forme d'impuissance acquise. À séparer des personnes qui votent pas par conscience politique, ce qui est un acte militant et ils ont raison. Les personnes qui disent de toute façon je peux pas changer mon corps, ou je peux pas apprendre les maths, je suis nul en maths, par exemple. L'impuissance acquise a longtemps fait du mal à beaucoup de femmes parce qu'elles ont été discriminées, on leur a un peu appris une fausse croyance que les maths c'est plus pour les hommes que pour les femmes. Et donc il y a l'impuissance acquise face au climat, de se dire je recycle, je fais attention à ma consommation, etc., etc., et je vois encore les glaciers qui fondent, etc., ça sert à rien, donc pourquoi est-ce que je vais mettre tout cet effort? Il y a aussi le fait que ça fait flipper, et du coup on préfère ne pas y penser, le déni, qui est très facile à mettre en place, surtout qu'on ne voit rien. Il y a aussi ce qu'on appelle l'illusion de connaissance, où la réduction de la dissonance cognitive, c'est des mots un peu techniques, mais par exemple la réduction de la dissonance cognitive, c'est de se dire, de toute façon, l'espèce humaine a toujours eu des défis, et on a toujours soulevé ce défi, et on voit de plus en plus maintenant de personnes qui disent il faut qu'on ait confiance en l'humain, on va découvrir un truc technologique qui va nous permettre de résoudre ce problème. Et donc ça me permet aussi de pas me prendre la tête avec le progrès technique va sauver ou résoudre la question climatique. Et donc il y a comme ça plusieurs. On peut continuer pendant.
Ouais, ça m'intéresse. Non mais moi je pensais aussi. Est-ce que tu crois pas que il y a une forme d'anesthésie aux statistiques, c'est-à-dire qu'à force d'avoir des statistiques tous les jours sur le sujet du climat, en fait tu ne les entends plus.
Alors il y a une forme de flooding. Oui, il y a une forme de beaucoup d'informations, et surtout, je pense qu'il y a un problème de pédagogie, c'est qu'on a commencé ça dans les années 90-80, et je pense qu'on n'a pas très bien expliqué aux personnes quoi faire et quoi pas faire, et les conséquences. Parce qu'à bout d'un moment, on disait, dans 5 ans, et chaque 5 ans, on disait, c'est les 5 ans d'après, et les gens ont l'impression qu'on nous bassine avec ça, mais il se passe rien. Alors qu'il se passe beaucoup de choses. Les coraux sont en train de mourir. Hier, il y a une étude qui est sortie que 80% des tortues, je pense que c'est en Nouvelle-Zélande, sont en train de naître femelles, parce que la température de l'eau impacte le choix des genres, et du coup ça va être très problématique s'il n'y a que des tortues femelles parce qu'elles ne peuvent pas faire des enfants tout seul. On a perdu genre 50% peut-être de la biodiversité. Beaucoup de choses sont déjà passées, mais je pense que quand on a parlé du réchauffement climatique, les gens s'attendent à ce qu'il y ait genre des boules de feu qui tombent du ciel, et peut-être à terme, c'est ce qui va se passer, mais j'espère qu'on n'attendra pas jusque-là. Donc, je pense qu'on a aussi pas très bien expliqué les conséquences qui sont déjà là. On a été peut-être un peu alarmiste, alors qu'il faut être alarmiste, mais peut-être pas dans le temps, quitte à perdre sa crédibilité. Et je pense qu'il y a eu une désensitisation. On se désensitise quand on est exposé au même truc plein de fois. Et effectivement, les statistiques sont des fois très, très abstraites. On ne le comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dit on va gagner 1,5 degré. Pour les gens, ils se disent, bah, 1,5 degré, on s'en fout.
Ouais, bah bien sûr.
Alors que pour un système, 1,5 degré, c'est énorme.
C'est ça.
Mais donc, il y a aussi toute la partie communication. Et puis, on a beaucoup de gens font beaucoup de choses. Mais on a aussi, je pense, dit aux personnes de faire des choses qui ont eu des effets négatifs au lieu d'avoir des trucs positifs. L'exemple le plus commun auquel je pense, c'est qu'on a matraqué les gens, qu'il faut éteindre les lumières avant de sortir de chez soi, etc. Et ce qu'on a remarqué bien plus tard, c'est que ces comportements qu'on a dit aux personnes d'avoir ont eu une sorte de d'effet rebond où les personnes font ces comportements et ça les déresponsabilise pour les autres. Donc j'éteins les lumières chez moi, je prends pas de bain, je fais des douches, etc. Mais après, j'emmène toute ma famille en vacances en Argentine. Mmh. Et du coup, l'avion que je suis en train de prendre offset élimine toutes ces lampes que j'ai éteint pendant toute l'année, parce qu'on s'en fout littéralement. Maintenant, il y a des lampes qui sont des LED. Je connais des personnes qui débranchent les appareils électriques chez eux pour éteindre le petit voyant rouge de stand-by. Ce truc, il peut rester allumé genre 10 000 ans. Ça fait pas un trajet en voiture. Genre littéralement, on s'en fout. Mais ce que c'était en train d'avoir comme fonction cognitive, c'est que ça déresponsabilisait. Ça donnait une sorte de porte de sortie, de me dire, moi, je suis quelqu'un d'éco-responsable. Et du coup, après, je me tape l'avion ou je mange 10 entrecôtes par semaine ou je prends une croisière pour faire le tour de la Méditerranée, etc. D'ailleurs, c'est assez paradoxal. Souvent, les personnes les plus éco-aware sont les personnes qui ont la plus grande empreinte carbone. Parce que, par exemple, on voit beaucoup écologie et bien-être qui sont ensemble. Et du coup, les personnes mangent bio, consomment local et vont faire leur retraite spirituelle dans un ashram en Inde. Mais cet avion pour aller en Inde, on en fait quoi? Et donc, il y a aussi cette incohérence, pas des personnes, hein. Je blâme jamais les personnes, il y a une incohérence des consignes à faire, parce que c'est un sujet complexe, parce que ça nous met du temps. Et encore une fois, on a beaucoup parlé des individus, et on invisibilise complètement les boîtes, les entreprises, le système, l'économie, les politiques, la compétition, la production, un iPhone chaque année, 10, 15 ordinateurs chaque année, etc. On n'a pas vraiment besoin de tout ça, quoi.
Non. Et alors, malgré tout, je vais juste revenir sur ce que tu disais sur la mise à distance et sur les portes de sortie. Est-ce que tu n'as pas l'impression, bon, c'est toi le neuroscientifique et le neuroscientiste et le psychologue, mais qu'on cherche toujours des portes de sortie parce que remettre en question la manière dont on vit, ça veut dire aussi remettre en cause son identité propre, finalement?
Oui, bien sûr, on cherche tout le temps des portes de sortie, mais pour tout. Mais des fois, la porte de sortie peut être bougée, peut être, c'est-à-dire la porte. En fait, quand on parle de porte de sortie, on parle d'une théorie qui s'appelle la dissonance cognitive. Et d'habitude, donc une dissonance cognitive, c'est une contradiction interne qu'on ressent. Elle peut être entre deux pensées. Ça peut être entre une pensée et un comportement, ou entre deux comportements. Par exemple, je peux avoir la pensée fumer, c'est mauvais. Et le comportement, je fume, ça me met en dissonance. Si je suis fumeur, souvent ce que je dis, c'est on va tous mourir un jour, de toute façon c'est dans longtemps, on se fait empoisonner par des tonnes de trucs, c'est pas comme si ce truc est en plus, etc. etc. Mais des fois, les portes de sortie peuvent être, bah, pour réduire ma dissonance cognitive, je vais arrêter de fumer. Il y a des personnes qui prennent cette porte de sortie et arrêtent. Et donc pour le climat, effectivement, les portes de sortie, on va dire, c'est beaucoup plus simple de se dire... mon sac en plastique ne va pas faire une différence, que remettre en cause notre mode de vie. Mais ce n'est pas juste pour notre identité, c'est que notre mode de vie, et c'est très spécifique au mode de vie consumériste, capitaliste, pour faire un peu, pour faire un peu dans large ou caricatural, le cœur de notre système de vie est un confort. C'est-à-dire le système est orienté pour amener un confort. On achète des pulls en cachemire, c'est hyper chaud, hyper doux. Les téléphones sont hyper puissants. Nos maisons sont chauffées. Les voitures sont confortables. Et du coup, c'est pas on demande de lâcher une identité autant qu'on demande de lâcher un confort. Un confort qui est physique. Alors que un de nos besoins les plus basiques, c'est notre corps, c'est de s'assurer qu'on s'en occupe. Et du coup, les douches chaudes, les crèmes, les shampoings, les après-shampoings, les aftershaves, etc., etc. On est en train de demander de lâcher un confort, pas juste de lâcher un comportement qu'on fait par habitude, par exemple, seulement.
Mais alors, justement, et ça, c'est vachement intéressant, j'imagine que tu dois être au courant des études de Durkheim et autres, mais... En fait, ce que j'appelle moi du bien-vivre, ce confort, il rend pas nécessairement heureux, il est assez insoutenable parce qu'on voit bien toutes les maladies mentales qu'il y a dans ces pays occidentaux et, et le nombre de suicides aussi qu'il y a dans ces pays occidentaux. Donc en fait, ça rend pas spécialement heureux non plus, ce système de bien-vivre.
Alors, c'est pas les mêmes personnes souvent, c'est-à-dire les maladies mentales par exemple. Elles sont plus diagnostiquées aussi en Occident, alors que dans d'autres pays, elles sont moins diagnostiquées. Donc, on ne sait pas si c'est plus important ou moins important. Mais surtout, ce qu'on sait, c'est que si on regarde juste les sociétés occidentales, sans les comparer à d'autres sociétés, c'est souvent les personnes les moins privilégiées qui sont atteintes infiniment plus, que ce soit pour la précarité, etc. Et c'est un système qui crée des inégalités. Mais quelque part, et j'aime pas dire ça parce que c'est pas cool, mais c'est les recherches... Être plus riche, on est plus heureux. Sauf qu'à partir d'un moment, un seuil qui est assez bas, si je me souviens bien, c'est genre à 6 000 ou 7 000 euros ou 5 000 euros.
70 000 à l'année.
Oui, donc par mois, ça a un effet de plafond et on n'est pas plus riche. Mais quelque part, il y a un pote à moi qui a dit ça un peu en boutade, peut-être qu'il l'a copié à quelqu'un, il vaut mieux être déprimé dans une maison qu'à la rue. Donc quelque part, on ne va pas nier que ça apporte un peu de satisfaction, mais le problème, c'est l'excès. C'est-à-dire, on veut pas. Les gens pensent que quand on parle de climat, on veut qu'on revienne tous à limite à devenir des chasseurs-cueilleurs. C'est pas vrai. On peut garder une sorte un certain niveau de confort sans être dans une sorte d'excès où je peux vraiment, si je vais pas en vacances sur une plage magnifique, c'est pourri. Et alors que, par exemple, surtout pour en Europe, genre tout est à deux pas. Donc, c'est pour ça que c'est important d'apporter de la nuance. Souvent, on caricaturise beaucoup le débat sur le climat. On fait genre, il y a Greta Thunberg qui veut nous faire peur et nous ramener à l'âge de pierre. Ou bien, il faut qu'on ait des Hummers tous avec des gros moteurs de diesel où on roule on s'en fout de tout. Alors qu'on a besoin d'un peu plus de nuance. C'est-à-dire, on peut décroître sans avoir peur de ce mot, tout en conservant une sorte de bien-être qu'on a gagné, de confort qu'on a gagné, de confort physiologique, mais on ne peut plus être effectivement dans cette hyper-production, on ne peut plus être dans cette hyper-consommation qui, même si elle apporte un peu de bien-être, le prix à payer va être beaucoup plus de mal-être. Quoi.
Ben c'est ça, en fait. Moi, j'ai la sensation que ce bien-vivre, il amène pas forcément que du bien-être. Il est vraiment dans le... Tu vois, c'est toute la différence entre l'être et l'avoir, en fait.
Oui, et surtout, il n'est pas sustainable, c'est pas soutenable. C'est-à-dire, c'est comme si... C'est un peu comme de la drogue. C'est comme si, je te dis, tu peux prendre l'héroïne, tu vas te sentir hyper bien, mais après le down, tu vas être dans un coin en train de trembler.
Bien sûr.
C'est un peu ça. C'est-à-dire, oui, effectivement, c'est cool de voyager en première classe, d'aller voir ses potes à Rio, puis de faire la semaine d'après à Tokyo, puis machin. Je ne sais pas qui mène ces trains de vie, mais disons que c'est ça. Il y en a, oui. Oui, c'est cool, mais bon, après, c'est quoi le prix qu'on va tous devoir payer? Et le prix va être que ça va faire mal, quoi.
Et là, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le prix, il n'est pas individuel non plus. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, la conséquence de ton acte, elle n'est pas forcément... C'est pas toi qui vas payer à la fin.
Mais c'est la différence principale avec la clope. Et le pire, c'est que souvent, probablement, les personnes qui ont le plus pollué sont ceux qui vont payer à la fin, quoi. C'est ça qui est un peu plus rageant.
Bah, en fait, c'est même l'inverse, non? C'est plutôt les gens qui ont le plus pollué vont pas payer, non?
J'essaye d'être optimiste et de dire qu'ils vont payer à la fin, mais il y a de fortes chances qu'ils payent pas.
Moi, j'ai la sensation
que
ceux qui polluent le plus, c'est quand même les pays occidentaux, et ceux qui vont payer, c'est pas les pays occidentaux les premiers.
Oui, hein. Et même encore une fois, dans les pays, c'est-à-dire moi, j'oppose pas seulement les pays occidentaux aux pays non occidentaux, mais dans les pays occidentaux, en intra, les personnes qui vont le plus polluer, donc souvent les personnes les plus riches, parce qu'elles peuvent se permettre le plus de choses, probablement elles vont être celles qui sont protégées le plus.
Bien sûr.
Parce qu'elles peuvent se payer d'avoir la clim jusqu'au bout, d'aller vivre quelque part d'autre. Il y a des ultra-riches qui sont en train de construire des bunkers en Nouvelle-Zélande pour aller se planquer là-bas, etc., etc. Et oui, effectivement, quelqu'un, par exemple, une personne qui vit au Liban, qui ne trie jamais ses déchets, qui utilise tout le temps sa voiture, qui fait tous les pires gestes au monde, pollue infiniment moins qu'une personne qui est hyper éco-responsable dans un pays occidental, du simple fait de la quantité de richesses qu'elles ont. Et du coup, la personne dans un pays occidental, inévitablement, pourra consommer plus, acheter plus de trucs qui vont polluer, se payer plus de vacances, avoir une voiture, etc., etc. L'autre personne, oui, mais elle est en train de polluer genre son petit coin de jardin. Parce qu'elle n'a pas les moyens de polluer plus. Ce n'est pas parce qu'elle est gentille. C'est ouais. juste impossible.
et ce n'est pas vers ça qu'on doit revenir, finalement ? C'est une sorte de consommation raisonnée ou de...
Si, en tout cas, on ne peut pas continuer comme on est. Raisonner, voire...
Décroître.
Décroître. Ouais. Sans que ça fasse peur. Ça ne veut pas dire qu'on va tous ne plus pouvoir voir la planète ou ne rien faire. Mais oui, effectivement, on a besoin d'une sorte de... Et je pense, donc, je pense d'un côté décroître et de l'autre côté, on a besoin, je pense, de reconnecter tout le monde un peu à la nature, dans le sens où moi, j'étais scout, je faisais des camps, j'habitais en campagne, etc. Et je rencontre des fois des gens qui n'ont jamais mis le pied dans une forêt, qui ne savent pas c'est quoi.
Et ça, c'est lié à quoi, selon toi ?
L'urbanisation. Mmh. On peut vivre toute sa vie sans jamais voir une vache. Je connais plein de gens qui n'ont jamais vu une vraie vache, ou bien en voiture en passant sur les autoroutes, mais qui n'ont jamais touché avec leurs mains. Ils ne savent pas c'est quoi la texture, par exemple, d'une vache, ou c'est quoi la texture d'une poule. Et je ne suis pas en train de dire la texture d'un lion, ou, genre une poule et une vache. C'est des trucs qui ne devraient pas être très très loin et qui ouais. sont relativement ouais, accessibles. Animaux, ouais. Je connais beaucoup, 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 beaucoup de gens qui n'ont jamais couru derrière une poule ou qui n'ont jamais porté une poule dans leurs mains.
Ah ouais. Ah non, mais c'est possible, effectivement.
Beaucoup. Je pense que c'est même presque une majorité des citadins n'ont jamais porté une poule. Je ne sais pas si on peut faire un sondage ici quand on sort.
Mais la tête d'une poule sous son aile.
Ouais, voilà, exactement.
Et on parlait tout à l'heure de la peur. Moi, je te disais, j'ai l'impression que, enfin, dans toutes les études que j'ai lues, la peur, ça a tendance à pas hypnotiser, mais à complètement bloquer les gens. Et toi, tu me disais, mais non, pas nécessairement, la peur, ça peut avoir différents impacts, en fait.
Ouais, la peur, pendant longtemps, évolutionnairement, c'est un appel un peu à l'action. C'est un appel plutôt à la vigilance. Mais effectivement, la peur, en fait, la peur peut devenir une sorte d'impuissance où je suis paralysé. Mais la peur aussi peut nous mettre en par exemple, le stress, en stress de fight et flight, et au contraire, de nous pousser à l'action parce qu'on flippe. C'est une valence. Et du coup, quand on parle d'écologie, on peut parler d'éco-anxiété, des personnes qui sont très, très inquiètes pour le climat, les enfants qui ont peur. Et beaucoup d'enfants sont en train, par exemple, à cause de cette éco-anxiété, de pousser leurs parents à leur dire « on veut plus de bouteilles plastiques à la maison ». On veut plus de brosses à dents en plastique, on veut ramener des brosses à dents en bois ou en bambou. Je veux pas aller en voyage aux États-Unis parce que je veux pas qu'on prenne l'avion. On peut aller en voyage au sud de la France. Ou,
Quand il y a besoin d'un avion aussi.
Oui, ou un bateau.
Un bateau. Mais le bateau, c'est. Oui, enfin, bref. Oui,
enfin, en tout cas, on peut aller en vacances plus proches. Et donc, ces jeunes, l'éco-anxiété, au contraire, ça les pousse à agir pour changer tout leur groupe familial. Et inversement, effectivement, il y a des personnes où l'éco-anxiété, ça les angoisse, ils n'arrivent plus à dormir, ils en deviennent malades et ça les paralyse. Mais c'est pas automatiquement. C'est-à-dire, il faut pas qu'on pense que si on explique aux gens les risques, ça leur fait peur, et si ça leur fait peur, ils vont rien faire. C'est pas vrai, parce que pour moi, c'est une posture intellectuelle. C'est jamais une bonne posture intellectuelle de se dire je vais mentir aux gens parce que they can't take it. Genre, ils peuvent pas supporter la vérité. Et moi, grand Albert, scientifique, je peux supporter la vérité, mais les autres pas. Il faut arrêter aussi avec cette posture un peu paternaliste de cacher. Genre, on a à dire aux gens et chacun se démerde. On est tous des égaux et des humains et souvent des adultes et même les ados, je pense qu'ils ont beaucoup plus de ressources que ce qu'on croit de pouvoir chacun gérer le meilleur des connaissances qu'on a aujourd'hui. Moi, je suis un très grand militant de l'open science, de l'accès à tout le monde, à toutes les informations. Et après, c'est à nous, en tout cas aux experts pour le climat. Mais quand je dis nous, moi, c'est parce que je fais la même chose sur le cerveau, les neurosciences, le QI, l'intelligence, etc., la psychologie, de faire en sorte que ces informations qu'on est en train de découvrir, qu'on les transmet avec nos degrés d'incertitude, quand on n'est pas sûr de dire on n'est pas sûr et de ne plus avoir peur et de dire il ne faut absolument pas montrer qu'on est incertain, il faut dire les choses comme elles sont, et de pédagogie et d'accompagnement. Mais...
Et alors justement, toi qui travailles beaucoup sur comment apprendre, comment on peut apprendre sur cette problématique du climat ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément de ressources qui sont disponibles, les ressources, elles sont disponibles. La problématique, c'est que souvent, on reste dans des... en particulier à cause des réseaux sociaux, on reste dans des cercles fermés. Comment on fait pour... C'est quoi le conseil pour les gens qui écoutent pour apprendre et mieux comprendre la problématique ?
On est des animaux sociaux. On apprend des uns des autres. Mm-hmm. Et du coup, de trouver des associations autour de soi d'aller les voir. Des fois aussi, on n'apprend pas juste parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on va au boulot, on rentre, on est crevé, et j'ai pas le temps de rentrer chez moi, ou la force, quand je rentre de 8 heures, 9 heures de travail, de rentrer chez moi, déposer mes affaires et ressortir pour aller faire encore autre chose. Mais souvent, il y a beaucoup de gens de milieux associatifs qui travaillent sur le sujet. Chercher des experts, et pas juste les personnes qui vont en parler, genre il y a des personnes qui travaillent vraiment sur le sujet, et se fédérer. Se fédérer, on va s'en sortir qu'ensemble.
Ça, c'est une certitude. Mais dans un monde individualiste, c'est un peu compliqué.
Oui, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup sur moins se faire confiance et plus faire confiance aux autres. Parce que je pense que je faisais une conférence sur les fake news il y a une semaine pour Médias en scène. Il y avait une sorte de festival de médias. Et je leur disais que je pense qu'une des idées les plus dangereuses dans le monde aujourd'hui, c'est de se dire que si tout le monde pensait comme moi, le monde irait mieux. C'est hyper individualiste. Je sais que ça part d'un bon sentiment, mais on a besoin aussi de notre diversité. Il y a des personnes qui vivent à côté des forêts, qui peuvent nous expliquer ce qu'ils sont en train de voir que nous, on ne voit pas. Il y a des personnes qui vivent à côté des mers. Il y a des personnes qui vivent à côté des rivières. Il y a des personnes qui vivent dans des climats chauds, qui sont en train de devenir plus froids. On a besoin de se reconnecter les uns les autres et effectivement, je pense, la contemplation, de ralentir et de se poser et de voir et de questionner toutes ces choses. Et pas juste d'être dans la réaction en permanence à fleur de peau de « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu ». La peur peut être un moteur, la panique, je ne suis pas sûr. Et c'est pas la même chose.
Ouais, parce que les théories de l'effondrement, c'est...
La théorie de l'effondrement, c'est... Encore une fois, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire, je sais pas si c'est une panique ou si c'est une peur justifiée, parce qu'il y a de fortes chances que l'effondrement... Après, est-ce qu'il faut que ça devienne une sorte d'identité enracinée où je vois tout à travers ce prisme et je ne veux plus être pote avec quelqu'un qui a une voiture parce qu'il est en train de... C'est un terroriste presque, etc. Je suis pas sûr que l'ostracisation est une bonne chose, mais j'ai rien contre la collapsologie ou l'effondrement, parce que je pense que leur théorie, quelque part, peut se tenir. Je ne m'y connais pas assez pour avoir une opinion très très éclairée sur le sujet. Mais encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut dire « Ah, c'est l'effondrement, et du coup, on doit tous courir dans la rue et jeter à terre ?» Ou à se dire «